Réplique politique de Maurice Blanchot avec Jean-Luc Nancy et Michel Suria. Dans une lettre envoyée à Roger Laporte le 22 décembre 1984, Maurice Blanchot définissait son activité pendant la période trouble et confuse de l'avant-guerre en ces termes. « J'ai été exposé à une véritable dichotomie, l'écriture de jour au service de tel ou tel et l'écriture de nuit qui me rendait étranger à toute autre exigence qu'elle-même, tout en changeant mon identité ou en l'orientant vers un inconnu insaisissable et angoissant. » Avant de nous interroger peut-être sur le sens et la validité de ce partage, c'est de cette écriture de jour, de cette écriture journalistique que nous allons parler avec Michel Suria, qui publie L'autre Blanchot chez Gallimard, et avec Jean-Luc Nancy, qui reproduit intégralement la lettre à Roger Laporte dans Maurice Blanchot, Passion politique, livre paru aux éditions Galilée en 2011 et qui vient de publier aux mêmes éditions La Communauté des avoués. Cet autre Blanchot nous a été révélé tardivement et progressivement. La BNF met aujourd'hui à la disposition des chercheurs tous les articles qu'il a publiés entre 1931, il avait 24 ans, et 1940, dans le journal des débats, dans le quotidien Le Rempart, dans l'hebdomadaire Aux Écoutes, dans le mensuel Combat que dirigeait Thierry Molnier, et dans l'hebdomadaire L'Insurgé. Quel portrait politique peut-on faire de Blanchot à partir de ces textes, Michel Suria?
Avant d'en faire un portrait politique, j'aimerais faire le portrait de quelqu'un qui s'oppose du tout au tout, semble-t-il, de l'écrivain qu'il deviendra, et qu'on connaît, et ou qu'on estime. C'est un écrivain de l'écriture du jour, donc un journaliste, vous l'avez dit. Davantage qu'un journaliste, c'est plutôt un agitateur. Il écrit dans des organes d'agitation. C'est un propagandiste, quasiment, que requiert la politique et la politique seule. La littérature n'a aucune part à tous ces articles. Ils sont innombrables. Ils ne sont pas tous disponibles, mais ils sont innombrables. La politique est l'unique sujet de tous ces textes, pas la littérature, ou rarissimement. Et la politique, sous un jour assez étrange, parce qu'il fait de lui-même une sorte de spécialiste de la diplomatie. De la diplomatie, donc des relations internationales, c'est justifié, l'époque y encourage, nous sommes dans les années 30, les turbulences sont nombreuses. Blanchot parle donc de ce que devrait être la politique extérieure de la France. S'agissant de la politique extérieure de la France, c'est-à-dire voulant en parler, il parle bien évidemment de la politique de la France, laquelle, à ses yeux, et c'est dans cela qu'un portrait assez précis se forme, et le portrait d'un agitateur ou d'un propagandiste d'extrême droite, la politique de la France est tout à fait indigne de la glorieuse France dont il se réclame et à laquelle il se rattache. La question se posera, et continue de se poser, quoique plus personne maintenant ni méconnaisse ces textes, ni réfute leur portée considérable, violente, tranchante, de savoir s'il suffit de dire que c'est une agitation d'extrême droite ou s'il est justifié de la qualifier de fasciste ou fascistoïde. Je ne suis pas sûr que ce soit d'un intérêt si considérable. Je m'en abstiens personnellement.
Oui, la portée diplomatique, en effet, est considérable. Blanchot est très inquiet de la montée des périls. Et il ne veut pas d'une politique qui, je le cite, pourrait précipiter des jeunes Français, au nom de Moscou ou au nom d'Israël, dans un conflit immédiat. Israël, c'est évidemment les Juifs qui étaient bellicis parce qu'ils pensaient qu'il fallait, en effet...
Des Juifs d'immigration, surtout. Parce qu'il distingue entre Juifs d'immigration et Juifs de France.
Mais il y a aussi un passage que vous citez dans votre livre L'autre Blanchot, l'écriture de jour, l'écriture de nuit, Michel Suria, qui concerne la politique intérieure et aussi dont on trouve des échos dans l'œuvre postérieure de Blanchot, que ce soit son œuvre engagée ou même son œuvre de critique littéraire. Voilà pourquoi je le cite. Il est nécessaire qu'il y ait une révolution parce qu'on ne modifie pas un régime qui tient tout, qui a ses racines partout, on le supprime, on l'abat. Ce texte est publié le 7 juillet 1936 dans Combat sous le titre « Le terrorisme, méthode de salut public ». Il est nécessaire, ajoute Blanchot, que cette révolution soit violente, parce qu'on ne tire pas d'un peuple aussi aveli que le nôtre les forces et les passions propres à une rénovation par des mesures décentes, mais par des secousses sanglantes, par un orage qui la bouleversera afin de l'éveiller. Cela n'est pas de tout repos, mais justement, il ne faut pas qu'il y ait de repos. C'est pourquoi le terrorisme nous apparaît actuellement comme une méthode de salut public. Voilà ce qu'il écrit donc en 1936, au moment du Front Populaire, contre le gouvernement
de Blanchot. Michel Zuria. L'antiparlementarisme n'est pas que d'extrême droite à l'époque, il est d'extrême gauche aussi. La plupart des lignes qu'on entend là pourraient provenir presque d'un tract d'extrême gauche de l'époque, des surréalistes par exemple, à ceci près que là, c'est d'un antiparlementarisme d'extrême droite qu'il est question, des ligues fascistes pour la plupart, et il s'agit, alors oui évidemment on aura l'occasion de revenir j'imagine sur ce que on retrouve de la sémantique, du lexique de Blanchot après la guerre, qui correspond effectivement, qui ressemble pour beaucoup voilà. À celui-là en effet.
Qui ressemble un peu à celui-là quand même.
Mais l'acmé sans doute de son engagement, vous avez eu raison de le dire, c'est bien évidemment le Front Populaire, la haine de Blum, c'est bien évidemment le complot judéo-bolchevique. Ça, c'est.
Et même s'il n'utilise pas le terme, quand même. Il parle des enfants.
Voilà. Il en parle séparément. Il voilà. Ne les ajointe pas, mais il ne les éloigne jamais beaucoup.
Jean-Luc Nancy.
C'est pas en
vous,
fois, je
vous écrivez quand même dans Passion politique, votre livre Blanchot, Passion politique, qu'en effet, vous êtes tout à fait réticent à l'idée d'un procès de Maurice Blanchot, et nous ne sommes pas là pour ça. Mais vous dites aussi qu'il y a eu, et c'est le terme qu'il emploie, je crois, même dans la lettre à Roger Laporte, une sorte de conversion. Alors, conversion de quoi à quoi? C'est-à-dire, qui était-il, selon vous, dans les années 30? Et à ce moment-là, quelle a été la nature de ce qu'il appelle lui-même, sinon une conversion, du moins une sorte de conversion, Jean-Luc Nancy?
Oui, une sorte de conversion. Il faut dire que le mot de conversion, il l'a repris à Philippe Lacoulabarthe, qui, de notre part, tous les deux, lui avait écrit, parce qu'à ce moment-là, nous avions eu la proposition de faire un numéro des Cahiers de Lerne sur lui. Et donc déjà, ce mot lui a été un peu tendu, proposé, s'en est saisi. Bon. Alors, conversion de quoi à quoi? Je ne serais pas trop. Conversion de la position d'agitateur dont parlait Michel Zuria tout à l'heure à une autre position, ça c'est certain. Conversion de fond de quelque chose qui, je crois, devrait appartenir aussi au portrait d'avant la guerre, mais alors à un portrait qui serait plus seulement politique. Parce que, bon, tu as dit, il a publié d'innombrables articles politiques, c'est vrai, il a aussi quand même publié un certain nombre d'articles littéraires, et aussi, alors, au moins trois, me semble-t-il, articles qui sont décalés, des articles sur Gandhi, et sur la mode de la spiritualité hindoue qui se répandait en France à ce moment-là, en particulier à travers Rabindranath Tagore. Bon. Et ces articles sont... Cela mérite qu'on s'y arrête juste un instant pour signaler qu'ils sont extrêmement sévères pour Gandhi, comme dans un faux, peut-être une fausse spiritualité, et pour l'idée même en général qu'on puisse importer en France, en Europe en général et en France autre chose que qu'une spiritualité. Une spiritualité, ben rappelons-la quand même par son nom, c'est-à-dire chrétienne, française et chrétienne. Bon. Et de cette dimension-là, de Blanchot, je me demande jusqu'à quel point il y a eu conversion. Pas exactement conversion de son rapport à une autre spiritualité, mais conversion d'une position absolument intransigeante selon laquelle, premièrement, la littérature est elle-même, comme il le dit dans le passage de la lettre que vous avez cité, l'écriture de nuit, elle est tout à fait ailleurs. Pardon. Donc elle n'est au service de rien. Mais en même temps, si on se rapporte à une lettre à Bataille, la dernière lettre peut-être de Blanchot à Bataille, je crois, où il dit qu'il a toujours été tiraillé entre la passion politique, justement, et la passion littéraire, mais qu'il a aussi toujours, qu'il s'est toujours demandé comment les faire se rejoindre, que là, dans cette conjonction, il y a toujours eu quelque chose chez lui qui faisait que la passion politique devait quand même tendre vers le tout à fait ailleurs, donc disons, le spirituel, vers lequel, alors, toute sa, son action politique d'avant la guerre était aussi orientée. C'est-à-dire aussi, il y a quelque chose, ils ont de maurassien là-dedans. Il était très, je crois, très maurassien.
Sauf que Maurras, c'était politique d'abord. Et il n'y avait pas une tension vers le spirituel.
Oui, mais
Jean-Yves Nancy.
Oui, maurassien, mais avec Barrès derrière.
Oui, avec Barrès, voilà. Oui. Michel Souriat, vous voulez intervenir?
C'est très difficile. J'aimais bien l'expression de Tchestov parlant de l'histoire de la transformation des convictions comme étant l'une des choses les plus intéressantes dans l'histoire de la littérature. Il en parlait au sujet de Dostoïevski. Là, évidemment, au sujet de Blanchot, ça serait utile de parler de la transformation des convictions, peut-être plutôt que le mot conversion qui a immédiatement, qu'on entend tout de suite en un sens religieux. Et Jean-Luc Nancy a sans doute raison de dire que, d'un point de vue spirituel, il n'aura sans doute pas tant changé que ça. Et puis, si conversion il y a, primo, elle n'est pas soudaine, elle met beaucoup de temps à s'opérer. Secondo, elle n'est pas manifeste. C'est-à-dire que le converti, généralement, se montre comme le converti, comme celui qui se repent d'avoir eu une certaine orientation et affiche d'autant plus la nouvelle qu'il a, que celle-ci, évidemment, est comme une sorte de d'aubaine ou de miracle ou de métamorphose pour lui. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une longue période de silence de Blanchot où, de fait, cette période de silence, supposons qu'elle est du milieu de la guerre, qu'elle va du milieu de la guerre jusqu'à 58 où il rencontre Mascolo, et Marguerite Duras, Robert Antelme. Jusque-là, il n'intervient plus du tout politiquement. Donc, si on devait imaginer que conversion il y avait eu d'un point de vue politique, ça serait dans ce long temps-là. Par contre, du point de vue des livres qui vont nous venir de lui, oui, c'est là qu'ils s'écrivent. Donc, de fait, l'écriture de nuit, manifestement, l'emporte sur l'écriture de jour.
Donc, Blanchot, dans les années 30, est un penseur lié à Thierry Molnier, à ce que Lou Bédelbet a appelé les non-conformistes, toute une extrême droite intellectuelle, très vivante et très radicale. Bien, il choisit le silence pendant l'occupation. On sait aussi qu'il a protégé et peut-être sauvé la femme d'Emmanuel Lévinas. Il y a ce grand mystère d'une amitié avec Lévinas, née dans les années 20 à Strasbourg, où ils se sont rencontrés, et Blanchot en parle souvent, c'est le seul ami qu'il tutoie. Et cette amitié, semble-t-il, ne s'est jamais débantie, même pendant la grande période de journalisme d'extrême droite de Blanchot. Mais ensuite, donc, il revient à l'écriture de nuit, sauf que La part du feu, 1949, se termine par ce épilogue, ce chapitre, la littérature et le droit à la mort. Donc nous sommes dans le domaine de la littérature, qui doit l'emmener ailleurs. Il dit, l'écrivain se reconnaît dans la révolution, elle l'attire parce qu'elle est le temps où la littérature se fait histoire, elle est sa vérité. Tout écrivain qui, par le fait même d'écrire, n'est pas conduit à penser « je suis la révolution », seule la liberté me fait écrire, en réalité n'écrit pas. Et puis, un peu plus bas, la littérature se regarde dans la révolution, elle s'y justifie, et si on l'a appelée terreur, c'est qu'elle a bien pour idéal ce moment historique. 1949. Bon, il retrouve malgré tout, sinon l'argumentaire, du moins l'imagerie de l'article de combat de 1936. Et moi, j'imagine cette date, 1949, Czesław Miłosz est en France, poète polonais, il demande, il est conseiller culturel en Varsovie, il demande l'asile politique, toute l'intelligentsia sauf Camus se détourne de lui, mais imaginez qu'il lise ça, imaginez un Miłosz lisant cette phrase, la littérature et la révolution, la littérature se reconnaît dans la terreur. Peut-être que stupéfait si tant est qu'il le lise, mais voilà, mais donc ça veut dire qu'il y a, et c'est ma première grande question, n'y a-t-il pas chez Blanchot le Blanchot d'après, une continuité dans une certaine radicalité, qu'il s'agisse de l'écriture de jour ou de l'écriture de nuit.
Alors là, moi, j'aimerais vous dire tout de suite, j'ai passé au texte de 1984, qui s'appelait « Les intellectuels en question », qui très souvent, et même encore assez récemment, j'ai vu qualifié de texte par lequel Blanchot aurait publiquement donc marqué une véritable adhésion à la démocratie.
Bon. Oui, c'est un texte qu'il a publié dans Le Débat.
Hein, il a publié
les intellectuels en question, 1984, une réflexion à partir de l'affaire Dreyfus.
Qui a été publié en livre quelques années après.
Oui, aux éditions
Fourbi. Bon. Je suis toujours très étonné de l'image qu'on a gardée de ce texte, parce que dans ce texte, il est écrit, bon, mot pour mot, que la démocratie est ce que les intellectuels... Alors, il faut expliquer que dans ce texte, intellectuel vaut pour écrivain, hein, et il le dit. Et donc, il faut comprendre l'écrivain, c'est-à-dire exactement celui dont il parle dans La Part du Feu, que vous venez de citer, bon, que la démocratie est ce que donc les intellectuels n'estiment pas. Ils peuvent, dit-il, se mettre à son service pour la justice. Et il re-raconte l'histoire Dreyfus, l'affaire Dreyfus, ce qui est en même temps même un petit peu étonnant d'aller se référer en 1983 à l'affaire Dreyfus. Ouais, il re-raconte ça comme un combat pour la justice qui est parfaitement légitime, mais dans lequel l'intellectuel, c'est peut-être de là dire que vient le mot d'intellectuel, dans lequel l'intellectuel fait peut-être son devoir de démocrate, mais ne fait absolument pas son travail d'écrivain. Mmh. Et son travail d'écrivain l'appelle ailleurs, autre part. Bon. Donc les intellectuels en question sont une déclaration ouverte de « je ne peux pas être démocrate ».
Donc vous voyez quand même une continuité.
Démocrate. La question est, est-ce que je ne peux pas l'être seulement quand je suis la nuit, dans l'écriture de nuit, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc je ne peux pas sérieusement, entièrement, complètement être démocrate. Je peux consentir à certains devoirs de justice, mais dans la littérature, à travers elle, donc, d'accord, là, il n'y a pas les mots révolution et terreur, mais c'est de quelque chose comme ça qu'il s'agit quand même.
Continue, ça, donc ça continue.
Oui, oui.
Je suis d'accord avec vous deux, d'ailleurs, sur le fait que son révolutionnarisme change d'exposant, mais il reste constant. Un révolutionnarisme assez émeutier, quelque chose qui le fascine dans l'émeute, dans le moment de l'émeute. Quelque chose, d'ailleurs, qu'il pourrait avoir commun avec Bataille. Bataille avait, avant la guerre, mais lui, à l'extrême gauche, cette même fascination pour ce soulèvement, y compris sans lendemain possible. Par contre, ce qui est plus intéressant à mes yeux, parce que mon livre est davantage consacré à ça, c'est-à-dire le rapport qu'entretiennent décidément la littérature et la politique en général, et le rapport qu'entretiennent la littérature et la politique chez Blanchot. Et ce que vous disiez n'était bien évidemment pas faux, qui consiste à la fois à se représenter Blanchot comme quelqu'un qui se retire très profondément dans l'abstraction, la subtilité théorique, dans la discrétion, le silence, l'absence, etc. Et en même temps, de ne jamais cesser de penser qu'il y a une sorte d'asymptote possible entre littérature et politique. Et que ce soit avant la guerre ou que ce soit après la guerre, le moment d'acmé, le moment orgasmique des masses, c'est quand même le moment où fusionne la volonté populaire et la dilution, alors comment dire, le sacrificium intellectus de l'intellectuel, de l'écrivain qu'il est, s'abolissant dans le mouvement des masses et devenant le même qu'elle. Quelque chose d'assez sartrien aussi, en ça. Ce à quoi on ne s'attend pas venant de Blanchot, finalement. Si on y regarde de près, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu seras d'accord, Jean-Luc, mais quelque chose d'assez sartrien dans ce... 68, en tout cas, est exactement à ses yeux le moment où il pense que le livre doit disparaître.
Le livre n'a pas disparu, reconnaissons-le. Cependant, disons que tout ce qui, dans l'histoire de notre culture et dans l'histoire tout court, ne cesse de destiner l'écriture non pas au livre, mais à l'absence de livre, n'a cessé d'annoncer en le préparant l'ébranlement. Il dit que tout ce qui se passe, nous ne l'enfermerons jamais dans un livre qui, même ouvert tant à la clôture, forme raffinée de la répression. Il y aurait là comme une sorte de correspondance entre, en effet, entre cette œuvre critique qui va de l'œuvre à l'absence d'œuvre et ce qu'il voit en 68 comme précisément l'abolition du livre dans un mouvement de masse où ce qui s'écrit, ce sont des slogans et des tracts. Comme si c'était un avenir souhaitable pour précisément une époque
mais il a pas
en totale rupture avec celle dont nous venons. Jean-Luc Nancy.
Oui, à ceci près que, alors, dans la communauté inavouable, 68 est le moment où le peuple, tout en se posant, s'affirmant comme peuple, se défait instantanément comme communauté. C'est pour ça que j'ai cru pouvoir dire que Blanchot désavouait finalement la communauté, se défait comme communauté, ne se constitue en aucune manière, et Blanchot passe des pages à insister sur cette absence de constitution, et cette non-constitution, ce retrait de toute communauté, fut-elle seulement incoative ou virtuelle, bon, ce retrait, débouche sur quoi ? Il débouche sur un récit de Marguerite Duras, récit que Blanchot qualifie de parfait parce qu'il est sans issue, dit-il, donc c'est une sorte de perfection de l'œuvre se désœuvrant elle-même, et ce récit de Duras est donné comme l'allégorie, la fable, le mythe de la vérité de la communauté. Donc il y a une espèce de, à la fois, oui, abandon du livre au profit de quelque chose qui serait... C'est pas peut-être à la limite plus que le livre, ou le livre lui-même en son désœuvrement devenant fondement d'une communauté qui surtout ne se constituera jamais.
Ça, c'est vraiment du Blanchot pur. Et en même temps,
je crois que c'est comme ça que ça se passe.
Un jour, Lévinas m'avait dit qu'il y a toujours eu chez Blanchot une très grande violence. C'est le mot qu'il a prononcé, et en effet, quand je lis ces textes sur 68, donc avant, en effet, la communauté inavouable, eh bien, il dit ceci, que vous citez, Michel Suria, c'est dorénavant la guerre, nous sommes des combattants et non plus des manifestants. Donc, c'est le discours révolutionnaire, le modèle de la politique, c'est au fond la guerre civile, hein, une guerre civile sans rémission. Et donc, il en appelle, en 68, qui a été quand même un mouvement non-violent, mais vous dites qu'il n'aimait pas Gandhi, à une violence extrême, peut-être pas pour former une communauté, mais semble-t-il en tout cas pour en finir complètement avec l'ordre ancien. Et c'est assez fascinant de voir, justement, chez ce Blanchot si retiré, si mystérieux, ces accès soudains de violence politique. C'est-à-dire, il ne revient en politique, que ce soit en 58 contre de Gaulle, ou en 68 pour célébrer le mouvement, que sous le signe d'une violence extrême. Comment on peut expliquer cela, Michel Suria?
Je ne sais pas. Je suis frappé par ce que vous rapportez d'Emmanuel Lévinas. Est-ce qu'il sent un portrait de Blanchot violent? Je ne sais pas si c'est le Blanchot de la deuxième partie de leur vie. C'est-à-dire, ça serait intéressant de le savoir, vous nous le direz. Dans la communauté des avoués, Jean-Luc Nancy va, vers la fin de son livre, vers une hypothèse que je n'aurais pas songé et que je trouve séduisante, qu'il y a, moi je vais vers l'hypothèse qu'il se convertit au livre en tant que le livre par excellence, la Bible, et en tant qu'il se convertirait lui-même plus ou moins à une sorte de judaïsme idéalisé, ou théorisé, idéalisé. Jean-Luc Nancy fait une hypothèse différente de la mienne, il dit qu'il y a une sorte d'ultra... catholicisme primitif, ou christianisme primitif, ou de christianisme primitif exacerbé. Et il y a quelque chose de la violence de l'origine chez lui en permanence, à constamment vouloir recréer les conditions d'une possibilité de l'origine. Je ne sais pas si... ce qui est frappant chez moi, ce qui me frappe décidément, c'est que je ne comprends pas comment il peut conduire d'un côté poursuivre ce cheminement-là, qui est compréhensible, qui est d'une nature collective et politique, communautaire, mythique, si on veut, et de l'autre, l'œuvre. L'œuvre laquelle est, tout ce que vous avez dit, mais en plus, extraordinairement solitaire. C'est l'œuvre de quelqu'un qui ne montre pas tant que ça le souci d'autrui dans ce qu'il écrit. Dans l'écriture du désastre, il n'est pas si, par exemple, livre emblématique, il n'est pas si question que ça d'autrui, ni du mythe, ni de l'origine. Il est quand même question essentiellement d'une sorte de contemplation de la mort. Ce qui me frappe, c'est que l'engagement politique recueille la violence que semble vouloir chasser l'œuvre littéraire, ou l'œuvre théorique, ou l'œuvre critique.
Jean-Luc Nancy ?
Oui, là, je ne sais pas si l'œuvre littéraire semble tant que ça vouloir la chasser, mais peut-être j'aimerais bien d'abord poser juste un point. Je crois que Blanchot a été peut-être tout le temps et beaucoup plus tôt que nous aujourd'hui, conscients de manière extrêmement aiguë d'un problème de la démocratie que depuis, je dirais de cette façon, nous ne connaissons que trop, auquel nous n'avons pas non plus de réponse. Et je dirais, il faut lui reconnaître ça. Je lui accorderai ça, de quand même savoir dès 68, peut-être, en tout cas en 83, quand il écrit La communauté inavouable, l'année suivante, les intellectuels en question, savoir que, avec la démocratie, peut-être la politique elle-même est perdue. Deuxièmement, ce qu'il fait dans la communauté inavouable, alors là, pour répondre plus directement à ce que Michel Suria vient de dire, et je dirais, c'est tout sauf un nouveau judaïsme, puisque tout son texte est adressé à Lévinas pour contester que le rapport à l'autre puisse être seulement le rapport de responsabilité éthique qui est celui de Lévinas, et pour exiger que ce rapport soit, un rapport de la passion, et deux, soit un rapport dans lequel l'autre, finalement, l'autre sous les espèces de la femme, du récit de Duras, disparaît dans un ailleurs absolu où seulement il est reconnaissable comme autre. Et à ce moment-là, la femme de Duras est comparée au Christ. Donc,
Je pense que dans les textes ultérieurs, il va aller davantage dans le sens de Lévinas, dans les textes qui sont plus tardifs que celui de la communauté, il me semble.
Oui, mais dans la communauté inavouable, il faut aussi dire qu'il invente cette circonstance imaginaire quand même assez ahurissante, qu'il compare le peuple de 68, s'auto-dissolvant, au peuple juif de l'Exode, qui, dit-il, se serait rassemblé en oubliant de partir. C'est-à-dire en oubliant de devenir le peuple de Moïse, le peuple de la loi.
Bon. Alors, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Jean-Luc Nancy, Blanchot et la démocratie. Il me semble qu'il y a un problème, c'est que Blanchot, dans sa critique de la démocratie, pense la politique dans la catégorie, si je puis dire, de la rupture. Il reste fasciné par la rupture, or... Peut-être que la démocratie ou le processus démocratique a ceci d'inquiétant qu'il est totalement liquidateur. Et là-dessus, il y a un texte de lui qu'on retrouve à la fois dans ses écrits politiques et, je crois, dans son livre « L'amitié », le communisme sans héritage. Tout ce qui enracine les hommes par des valeurs, par des sentiments, dans un temps, dans une histoire, dans un langage, et le principe d'aliénation constituant l'homme comme privilégié tel qu'il est, français, le précieux sang français, l'enfermant dans le contentement de sa réalité et le conduisant à le proposer en exemple ou à l'imposer comme affirmation conquérante. Le communisme ne peut être l'héritier, pas même l'héritier de lui-même. Il doit consentir à laisser se perdre radicalement le legs des siècles, fût-il vénérable. Donc, entre le monde libéral capitaliste, notre monde, et le présent de l'exigence communiste, il n'y a que le trait d'union d'un désastre, d'un changement d'astre. Et là, c'est là que, par un autre biais, si vous voulez, je reviendrai à Lévinas. Oui, l'importance de Lévinas est très grande dans l'œuvre de Blanchot, et pas si tardif que ça, parce que être juif, c'est un texte de 62, qui est repris dans l'Entretien infini en 67. Il est vrai que, disons que la référence à Lévinas est de plus en plus importante avec le temps, sauf que Lévinas, pour lui, l'être juif est rivé à une filiation, à une tradition, là où l'être occidental est l'être de l'émancipation, de l'autonomie, du non-ancré. Et d'ailleurs, s'il y a un syntagme juif par excellence, comme l'a rappelé Jean-Claude Miner, c'est de génération en génération. Or, de tout cela, Blanchot fait fi pour rompre justement avec le français enraciné qu'il a été, mais je ne vois pas à quoi peut mener aujourd'hui une politique qui serait tout entière fondée sur le rejet de l'héritage. Or, il me semble que c'est bien de cela qu'il s'agit avec le Blanchot deuxième manière.
Le Blanchot deuxième manière et pas troisième manière. Le Blanchot de la radicalité 58, l'extrait que vous avez lu, c'est exactement la même langue que dans les années 35, 36, 37, mais inversée.
La même langue inversée.
La même langue inversée, avec une pointe d'ironie, le précieux sang français, ce qu'il disait très littéralement au contraire dans les années 30, et que tout à coup il se moque. Et évidemment, à ce moment-là, il inverse tous les signes et tous les exposants, et du coup, tout ce qui était motif d'attachement, de ferveur, d'ancrage dans les années 30 devient, au contraire, ce qu'il faut liquider, pour reprendre un autre mot que vous avez employé. Mais le troisième, Blanchot, celui que j'appelle de la reconversion, celui qui enfin fait l'abdication de la politique et lui préfère, mais ça, bon, je pense qu'on peut en être d'accord ou pas, il fait le choix de l'éthique qu'il va chercher chez Lévinas, parce qu'il y a quand même la deuxième période, disons qu'elle est marquée par des compagnonnages. On a beaucoup cité celui de Lévinas, mais il y a celui de bataille pour l'après-guerre, jusqu'à un certain point, jusqu'aux années 60, il est fort, il est amical. Il y a les rencontres de Mascolo, d'Anthelme, etc. Ça, c'est le compagnonnage intellectuel, politique. Et il va un jour se retrouver, il s'éloigner d'ailleurs de Mascolo, de Duras, et à ce moment-là, en appeler à l'œuvre et à la personne d'Emmanuel Lévinas, et à adopter beaucoup des lectures et des interprétations de Lévinas. Ce qui ne fait pas du tout le même homme. Je veux dire, après, il redeviendra sans doute, au contraire, quelqu'un qui sera attaché à ce que vous appelez l'héritage. À l'origine, j'appellerai, je l'appellerai plutôt l'origine que l'héritage.
L'origine plutôt que l'héritage.
Moi, je sais.
Jean-Luc Nancy.
Je serais pas tout à fait d'accord. Non, pas du tout d'accord pour dire que Blanchot laisserait la politique pour l'éthique. C'est ce que tu as dit. Parce que dans La communauté inavouable, le mot politique n'intervient que deux fois, mais de manière absolument décisive. La première fois, c'est pour parler de 68 et pour parler en 68 d'une politique qui serait définie par le fait de ne rien exclure. Rien du tout. Ce qui est une espèce de forme de, tellement radicale de la radicalité que on sait même pas par quel bout attraper cette politique, mais elle est nommée politique. Et tout à fait à la fin du livre, ayant repris le récit de Duras, l'ayant traduit en quelque sorte en termes christiques, etc., Blanchot écrit que tout cela a des conséquences politiques. Qu'il dit qu'il transmet à d'autres le soin d'analyser, donc des conséquences politiques. Donc, au contraire, je dirais, la communauté inavouable est la première version du texte, d'ailleurs, qui l'avait précédé, qui était adressée à Lévinas, est une manière de, à la fois de dire à Lévinas le rapport à l'autre est passionnel et pas seulement éthique, donc, hein, et deuxièmement, l'éthique ne suffit pas, il faut au moins faire signe vers une politique. Vers une politique que je ne sais pas comment situer, mais voilà, une politique...
Oui, mais en même temps, cette critique de Lévinas, Jean-Luc Nancy, me paraît assez injuste, parce que cette sorte d'ambiguïté entre la situation amoureuse et le rapport éthique... Lévinas l'assume totalement. Il décrit en effet l'éthique comme une espèce de rapport passionnel. Malgré moi, pour un autre, on ne peut pas trouver de définition plus haute, plus juste de la passion. Et Lévinas le sait très bien. Et d'ailleurs, dans Totalité infinie, il y a des considérations sur le féminin, sur la volupté, sur la caresse. Dans ses entretiens avec François Poirier, il parle du rôle des écrivains russes dans sa prise de conscience philosophique. Il parle de Proust aussi. Proust comme une manière, justement, l'amour proustien comme une sorte d'accès à cette altérité qui se dérobe toujours. Donc, il est très très conscient de cet équivoque fondamental. Il écrit une sorte de cantique des cantiques à sa manière, Emmanuel Lévinas. Et puis, d'autre part, il y a aussi autre chose chez Blanchot qui ne concerne pas que Blanchot et dont j'aimerais qu'on parle. Aussi, cet appel à la violence, à la rupture, à la révolution, ça m'a évoqué, à contrario, un texte de Brice Parrain, paru dans l'Indifférent général en 1969, « Petite métaphysique de la parole ». J'ai lu quelque part que Dionis Mascolo et Brice Parrain étaient assez liés. Hein. Mais alors, ce que... Il n'a pas supporté, notamment dans le surréalisme, mais pas seulement, dans la révolution russe, enfin, c'est la recherche de la démesure dans le maniement des mots. Il dit ceci, donc, une tendance à se payer de mots, violence, terrorisme. Tout d'un coup, on s'enivre de quelque chose dont on sait bien qu'on ne le subira pas vraiment, mais qui est une posture à laquelle il me semble que, justement, nous devrions porter attention pour nous en détacher tout à fait. J'ai lu l'entretien que Julien Coupa a accordé très récemment dans l'Obs, et on retrouve ce style de discours. Nous sommes entrés en guerre contre ceux qui nous gouvernent, et cette guerre va être violente, cette guerre va durer. L'alternative entre révolution, réaction se durcit. D'ailleurs, il cite Mascolo, il dit le contraire d'être de gauche, ce n'est pas être de droite, c'est être révolutionnaire. Il dit aussi que on nous endort, le gouvernement peuple notre sommeil de cauchemar terroriste pour nous empêcher de nous réveiller, que tout, voilà, etc., etc. Donc, lisant cet entretien après avoir lu les textes de Blanchot sur 68, je me suis dit que c'est un peu le même climat et que c'est un peu ce type de discours dont Brice Parrain disait qu'il fallait absolument sortir. La démesure dans le maniement des mots. Il y a un peu ça chez Blanchot quand même. Et chez ses successeurs.
Je me garderai d'aller dans votre sens et de dire qu'il y a de la démesure dans les mots de Blanchot. Je crois qu'il y a de la démesure qui est nécessaire dans tous les mots qui en appellent à la révolution. Ce qui me frappe moi plus chez Blanchot, c'est que ce qui peut paraître démesuré dedans, c'est qu'on ne voit pas ces mots autrement que comme de pures abstractions. Quand en 68 ou début 69, il continue d'en appeler à la révolution, disant même que celle-ci a eu lieu, mais qu'il convient malgré tout de rester en guerre, il ne dit pas du tout pour quelle guerre, ni avec qui, ni pourquoi, dans quel but. C'est une chose assez frappante que de le voir là, en pur intellectuel. Sartre, par exemple, qui pourrait être son pendant à ce moment-là, occupant une place, elle, beaucoup plus visible, dit très exactement avec qui il s'associe. Même si lui, son Castres est intéressant aussi. Il écrit son Flaubert à ce moment-là et il dit « Je veux bien aller vendre la cause du peuple, mais enfin, je suis un écrivain bourgeois, il faut que je termine mon livre. »
Bon, malgré la pression des maoïstes qui voulaient qu'il arrête.
La pression des camarades qui voulaient qu'il arrête. La dichotomie aussi se fait jour-là. Eh bien, je crois que c'est plutôt ça qui est frappant. Sartre aussi, à qui s'associer, mène des opérations, il constitue un journal, quelque chose existe. Il en résulte quelque chose. Chez Blanchot, rien. Je crois que on surestime beaucoup ce qui ne doit qu'à Blanchot dans cette partie-là de sa vie. Il se met beaucoup à l'école de Mascolo. Mascolo a écrit Le communisme en 53, qui est un livre remarquable et tout à fait introuvable aujourd'hui, qui est une sorte de révisionnisme du communisme. Et Blanchot s'inspire beaucoup de ça. Et quand il rejoint la politique, en fait, il la rejoint dans les traits et dans les formes que Mascolo et ses amis lui ont dessiné.
Mais alors, Michel Soria, vous diriez pas qu'il y a des mesures dans le maniement des mots quand, dans la lettre de Mascolo, que vous citez, Jean-Luc Nancy, dans votre livre Maurice Blanchot, Passion politique, celui-ci écrit qu'entre Blanchot et lui, il y avait la reconnaissance commune d'une vue tout à fait simple, celle qui, de l'existence de la littérature, fait conclure à la nécessité du communisme. Ça ne relève pas de la critique de Brice Parrain, ça. Je dis ça pour la provocation, bien sûr.
Oui, non, je vois pas en quoi ça... C'est tout ce langage d'époque, là. Ce que vous imputez à Blanchot, vous pourriez l'imputer à l'époque, en tant que révolutionnaire, dans son ensemble. Blanchot est à l'unisson. Il a des mots plus frappants, peut-être, que d'autres, parce qu'il écrit mieux, qu'il formule mieux. Quoi qu'il veuille réduire son génie à des tracts, ces tracts sont quand même admirablement écrits. Bon, ils sont traversés par quelque chose que vous disiez, de la littérature russe. Oui, il y a quelque chose de dostoïevskien là-dedans. Mmh. Moi, ce qui me paraît simplement, c'est ce que je vous disais, c'est si frivolité il y a là-dedans, plutôt que fièvre, c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'assise. La politique telle qu'il l'entend encore à ce moment-là, c'est en tant que communiste. Il se garde malgré tout de dire de quel communisme il est question.
Il l'a dit avant, dans un, je sais pas, c'est une note qui est d'avant la communauté inavouable, mais dans la communauté inavouable, d'une certaine façon, dans la première partie au moins, il le redit. Le communisme, c'est le nom de ce qui se soustrait à toute communauté instituée.
C'est un peu ce qui emprunte à Bataille, d'ailleurs, qui ne le disait pas du communisme, d'ailleurs.
Tout à fait, mais d'ailleurs, il y a tout un geste complexe là, sur lequel on ne peut pas revenir maintenant, de reprise de Bataille, qu'il voudrait part de la bataille, voire en dépit de bataille lui-même. Oui.
Mais le communiste, ce qui se soustrait à toute communauté instituée, si on s'arrête quelques minutes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pas aussi une autre manière de se payer d'eux? Parce que c'est en même temps soustraire toute forme de communisme à toute critique. Puisque toute communauté instituée n'est pas le communisme, donc le communisme se soustrait à toute communauté instituée. Et en quoi, justement,
là, je répondrai, si vous voulez, je répondrai...
La critique politique est-elle avancée?
Je répondrai en mon nom, un peu comme à la place de Blanchot. Je pense que Blanchot est peut-être sensible à ce moment-là à quelque chose, bon, qu'il ne dit pas comme ça, mais que peut-être on peut essayer d'entendre dans ce qu'il dit, à savoir que le mot de communisme, le mot est peut-être un mot jusqu'à présent resté vide, mais qui porte quand même, parce que il parle du commun, qui porte une attente, une exigence, un désir, et peut-être un désir révolutionnaire, qui dit simplement qu'il n'y a pas de commun, qu'il n'y a pas de vérité du commun. Et ça, je veux dire, ça, je l'accorde volontiers à Blanchot et de même que j'accorde à Coupa de dire ne pas être de gauche, c'est pas être de droite, c'est être révolutionnaire. Je comprends très bien que Coupa dise ça. Et en ce sens-là, je dirais, Blanchot, peut-être, je lui reconnaîtrai ça, Blanchot, peut-être dans la communauté inavouable, dans les intellectuels en question, essaye de dire quelque chose comme ça. Et aura peut-être essayé de le dire... justement, bien avant, nous, bien avant le comité invisible.
J'ai pas l'impression que Coupa se raconte un peu des histoires. Il rentre du Mexique, il voit la police partout, il dit mais c'est affreux, il y a ses uniformes, etc. On est là pour détester la police parce qu'elle représente l'ordre, alors qu'il y a des manifestations là en janvier qui applaudissent la police parce que simplement elle nous protège contre un terrorisme qui existe. Donc j'essaye de revenir un peu sur terre de manière extrêmement balourde, mais il y a un moment où je fais mon brise-pas. Quand même.
Là, il y aurait un anachronisme, c'est celui dans lequel je ne vous suis pas, donc, non plus que d'ailleurs Jean-Luc Nancy ne vous suit, parce qu'il y a quand même un anachronisme fort. Par contre, ce que j'ajouterais à ce que disait Jean-Luc Nancy, qui me paraît parfaitement juste, on peut effectivement soutenir le mot de communisme dans la définition qu'en avait Blanchot, qu'en auraient des gens comme Jean-Luc Nancy ou comme Alain Badiou encore, mais je supposerais, moi, y ajoutant donc cela, qu'il y a quelque chose d'une critique anarchiste à l'intérieur du communisme tel que Blanchot se le conçoit.
Ça, c'est vrai.
Et que son anarchisme a sans doute été de droite tout un temps avant qu'il ne devienne de gauche. Après-guerre, il parle très, très souvent du surréalisme. S'en recommande beaucoup, disent l'admiration qu'il porte au surréalisme. Et il y a beaucoup de l'anarchisme surréaliste dans le Blanchot de la seconde période.
Bien. Je voudrais revenir à la première, mais parce que peut-être la discussion que nous allons avoir pourra éclairer ma question. Je reprends un passage de la lettre très intéressante envoyé par Dionys Mascolo à Philippe Lacoulabarthe et que vous reproduisez Jean-Luc Nancy. Dionys Mascolo dit « À l'écriture fascisante du début, écriture sans pensée ou animale, appuyée sur des mots comme France ou nation ou esprit, tous réductibles aux mots bêtises, a finalement succédé ce qui doit s'entendre comme l'exigence d'un communisme de pensée. » Là, je résume la deuxième partie de la phrase. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette formulation, écriture sans pensée, appuyée sur des mots comme France, nation ou esprit, tous réductibles aux mots bêtises.
Moi, j'en fais grand cas dans mon livre, évidemment, et je la reprends donc à mon compte, et puisque Blanchot lui-même va chercher la bêtise chez Heidegger, comme Mascolo lui-même le fait à peu près au même moment. Et l'intérêt, effectivement, de Mascolo est de démontrer qu'il y a, dans toute grande pensée, une part de bêtise inhérente, et comme inaliénable. C'est celle-ci chez Blanchot. Alors, de dire la seule question que vous posiez, à laquelle je ne saurais pas répondre, c'est savoir s'il n'y a pas de pensée dans le premier Blanchot, comparativement à celle que l'on connaît et qu'on loue, effectivement, il semble qu'elle soit nulle et non avenue. Ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr.
La formule de Mascolo, un communisme de pensée, répond aussi un peu à la question que vous posiez tout à l'heure. Parler d'un communisme de pensée, c'est pas parler d'un communisme qui s'institue. Alors, c'est pas de quoi est-ce parler? Je ne sais pas, mais je pense que Mascolo met bien le doigt sur quelque chose qui traverse Blanchot.
Mais quand même, genre... France, nation, esprit, mot réductible au mot bêtise. Alors, je vais enfoncer le clou, puisque vous n'avez pas tout à fait répondu. J'ai sous les yeux le livre de François Dufay, octobre 41, des écrivains français en Allemagne, Le voyage d'automne. On les connaît, Ramon Fernandez, Brasillac, Dreux-La Rochelle, Chardonne. Jacques Decour, écrivain communiste, mort d'ailleurs, fusillé au Mont-Valérien. Leur écrit une lettre, il écrit une lettre à messieurs Bonnard, Fernandez, Chardon, Brasillac, etc., anciens écrivains français. Monsieur, vous revenez d'Allemagne, tandis qu'à Paris, la Gestapo emprisonnait 5 membres de l'Institut de France. Vous alliez invité par l'Institut allemand prendre à Weimar et à Berlin des consignes de monsieur Goebbels. Serait-ce là votre conception du patriotisme? Honneur, fidélité, patrie, pourquoi faire sonner à vos oreilles des mots dont le sens vous échappe? Bon, donc je ne vois pas comment on peut dire, après ce qui est passé, que le mot France est réductible au mot bêtise, et même le mot nation, si précisément on veut s'inscrire du bon côté de l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé que vous réagissiez.
Vous faites exprès. Le mot France tel que Mascolo le moque dans la bouche de Blanchot, c'est le mot France ainsi que Blanchot l'emphatise, le glorifie dans les années 30, c'est-à-dire une France éternelle, catholique, blanche. C'est évidemment ça qu'il moque. Je ne crois pas que Mascolo, je l'ai assez bien connu, jamais fait l'éloge de la France non plus. Non plus que moi, non plus que bon.
Voilà. Mais, oui, mais bon, c'est ça, quand même.
Non plus que moi. Sauf qu'il y a il peut y avoir, en nous forçant bien, Badiou, il n'y a pas besoin de le forcer pour qu'il dise qu'il y a une France révolutionnaire, une France de la Commune, qu'il reconnaît comme la seule et authentique France pour lui. Je veux dire, il y a aussi des Frances révolutionnaires. Bon, si on y tient, moi, il me semble que, sans faire d'anachronisme une fois de plus, la génération de Bataille, de Blanchot, de Mascolo, n'était pas si portée que ça. Vous avez oublié une chose qui n'est pas de peu d'importance, c'est quand même le retour de Blanchot à la politique en 58. C'est au moment de la décolonisation.
Et oui.
Et donc la France est très mise en cause à ce moment-là comme étant un pays colonisateur.
Mais
ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien, sauf que vous le dites vous-même dans votre livre, Blanchot met en cause De Gaulle avec une violence inouïe, le comparant à Pétain, disant que c'est à peu près la même occupation. Et moi, j'ai lu récemment, le hasard fait bien les choses, le bloc-notes de François Mauriac, dont je crois que Blanchot n'estimait pas beaucoup comme écrivain. Eh bien, il y a une très grande lucidité politique, on le disait gâteux du général de Gaulle, et il dit à la gauche, c'est De Gaulle qui a fait la politique que vous avez été incapable de faire, c'est De Gaulle qui a été l'artisan de cette décolonisation, et vous n'avez pas cessé de lui cracher dessus. Et c'est un peu ça, le bilan qu'on peut faire si vous voulez, maintenant, quand on se retourne sur cette période. Donc, la violence du refus, n'est pas tout à fait à la hauteur de l'événement.
Vous pouvez dire ça, mais il y a une aversion personnelle de Blanchot pour De Gaulle,
voilà,
que j'essaye de voir.
Vous essayez de l'analyser. Bon,
j'essaye d'analyser la sorte Michel de bizarre Thierry. Fascination que Blanchot nourrit pour De Gaulle. Mais vous oubliez aussi encore une autre chose, qui est du même moment exactement, et peut-être là, la France s'y qualifierait-elle positivement, c'est le manifeste des 121, c'est la déclaration sur le droit à la soumission dans la guerre d'Algérie, un mouvement d'intellectuels.
Oui, Blanchot qui a écrit le texte, semble-t-il.
Qui l'a finalisé. Et là, il y a quelque chose, pour une fois, d'efficace. Il y a eu un véritable effet de la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Et il est signé d'intellectuels, dont essentiellement Blanchot. Donc, il y a une France de... une autre France que celle du maintien de l'Algérie française.
Mais il y a aussi la rupture de l'intérieur du pouvoir avec l'Algérie française. Donc il faut aussi prendre en compte à l'heure des bilans. C'est pas le droit à l'insoumission qui a débouché sur l'indépendance de l'Algérie. Et ce qu'on peut mettre en revanche au débit du général de Gaulle, c'est l'abandon des harkis. Ça c'est terrible, mais je pense pas que la gauche leur aurait réservé le même sort, elle qui n'avait aucune distance critique vis-à-vis du FLN, Jean-Luc Nancy.
Est-ce que vous voulez... Non, là j'ai rien de plus à dire, parce que je crois en effet, comme Michel Churiac, bon, le mot France, on pourrait... Vous savez, ça me fait penser à ce que Lévinas écrit de la France au début de son premier essai de roman. Un jour, nous avons parlé de ces essais de roman, et au début de la guerre, il s'exclame « La France, qu'est-ce que la France ?»« La France, ses montagnes, ses racines, etc. » Enfin bon, comment est-il possible que la guerre tombe sur la France? Bon, c'est Lévinas, C'est Lévinas.
C'est Lévinas qui dit aussi qu'on fait la guerre pour défendre la langue française. Oui. Et il a aussi, dans son livre avec Poirier, son livre d'entretien, il dit que Blanchot, il reconnaissait en lui, en sa hauteur aristocratique, quelque chose de l'excellence française.
Absolument, absolument. Et ça, je crois que c'est très important pour expliquer quelque chose qui continue toujours à m'étonner, c'est que Lévinas n'est pas réagi à la communauté inavouable dans laquelle, même si Blanchot, en effet, tire d'un côté l'éthique un peu à lui, mais d'un autre côté, il ne cesse pas de le contester. Peut-être, vous disiez tout à l'heure, à tort, parce que Lévinas parle d'Eros, etc. Oui, mais l'Eros blanchotien est complètement différent. L'Eros blanchotien est sans paternité. La femme y est la porteuse d'une jouissance qui échappe complètement à l'homme et l'homme retombe du côté de l'homosexualité comme on est en 83, les précautions ne sont pas, bien que Blanchot prenne aussi une précaution, mais il y a quand même un accent comme ça là, anti-homosexuel et anti-institutionnel en même temps.
Poser une question un peu biographique, on sait très 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 peu de choses de la vie affective de Blanchot. Même dans le livre de Bidan, on apprend une liaison avec Denise Rollin, ancienne maîtresse de Bataille. A-t-il eu une vie amoureuse? Qu'est-ce qu'on sait de cela?
Cette liaison est, cet amour est avéré avec Denise Rollin. Voilà, pour avoir connu son fils, il est avéré effectivement. L'intéressant, c'est que c'était très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que c'était l'amoureuse de Bataille aussi.
Voilà. Donc c'est une scène dostoïevskienne, mais du reste, on ne sait rien. Il part de l'héros, il part de l'amour, de la passion dans La communauté inavouable, mais même ses biographes sont extrêmement discrets.
Dans La communauté inavouable, il prend un récit de Duras dont il dit que ce récit-là, Duras s'y est évidemment investi elle personnellement, et il prend en quelque sorte la place de Duras comme l'écrivain qui va dire la vérité du récit de Duras. Tout ça sur fond de 68, où je pense qu'il a été aussi avec Duras. Dehors, pour une fois.
Dans la rue.
Bon, voilà.
Dans la rue. Donc, bien, merci beaucoup Jean-Luc Nancy et Michel Suria. Alors, je rappelle, Michel Suria, que vous publiez chez Gallimard, dans la collection Tell, L'autre Blanchot, l'écriture de jour, l'écriture de nuit. Jean-Luc Nancy, vous avez publié aux éditions Gallimard, Maurice Blanchot, Passion politique, et plus récemment, La communauté désavouée. J'ai cité aussi de Brice Parrain, Petite métaphysique de la parole, chez Gallimard, et de toute façon, vous trouverez l'ensemble des références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le choc Charlie. Mes invités seront Mathieu Lindon et Daniel Schneiderman. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, Le péril jaune, une angoisse dépassée avec François Pavé.